Bonjour et merci pour votre fidélité à notre antenne et à votre émission Patara, le débat politique de Radio Ndeke Luka. Vous nous écoutez à Boali, situé à 95 km de Bangui, Boali qui accueille les festivités de la Journée mondiale de l'alimentation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions ou dans nos prochaines émissions. Mais aujourd'hui, place à la rentrée académique 2021-2022. En effet, le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, a officiellement lancé le lundi dernier la rentrée administrative. À cette occasion, le président de la République s'est félicité des avancées enregistrées dans l'éducation. Il a annoncé que désormais, les inspections académiques passent de 8 à 20. L'année académique 2021-2022 s'ouvre avec une nouveauté. Désormais, l'enseignement sera aussi en Sango. Au moment où les élèves reprennent le chemin de l'école, les candidats au baccalauréat sont toujours dans l'attente des résultats. Et c'était ce vendredi soir que le mouvement d'affaires l'affectation des administrateurs a été rendue publique. Question, quelle est la nouvelle politique éducative du gouvernement? Que fait le ministère de l'Éducation nationale pour rattraper le temps? Ne craignez-vous pas que la persistance de l'insécurité constitue un obstacle à l'éducation des enfants? Avec et désormais l'intégration du Sango dans l'enseignement, quel serait l'avenir de l'école centrafricaine? Voilà tant d'interrogations qui vont nous aider tout au long de ce débat politique. Pour en parler, je reçois sur le plateau du studio B de Radio Ndeke Luka M. Karl Kikobé. Bonjour.
Bonjour Amundo.
Vous êtes le vice-président du Conseil national de la jeunesse, Monsieur Christian Aimé Ndota, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour à tous les auditeurs.
Journaliste indépendant et observateur social, Monsieur Romain Sopio, bonjour.
Bonjour à tous les enseignants centrafricains.
Oui, vous êtes inspecteur de l'enseignement au ministère de l'Éducation nationale et Augustin Agou, bonjour.
Bonjour.
Président fondateur du parti La Renaissance pour un développement durable et ancien député du premier arrondissement de Bangui, Armando Angu. Dites-moi, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Nous ouvrons ce débat avec cette première question à vous, Monsieur Sopio. La rentrée scolaire étant lancée lundi dernier par le chef de l'État, au regard du retard constaté, est-ce que tout est prêt pour espérer une rentrée effective?
Ah, je rectifie quelque chose qu'il faut comprendre. Bon, on a lancé l'année scolaire. Mais on distingue ça, on considère que c'est la rentrée administrative. Cela veut dire que tous les cadres de l'éducation nationale, les administrateurs, le proviseur, les censeurs, les surveillants généraux, et y compris les enseignants, doivent venir préparer cette rentrée-là. La propriété, la liste, les inscriptions. Et voilà, au lieu de venir en même temps que les élèves, ça se faisait avant, donc il faut qu'ils préparent pour accueillir. Quand vous voyez quelqu'un, il faut préparer le terrain.
Et nous l'avons mentionné dans le laïus débat. Ouais.
Et donc la rentrée pédagogique interviendra le 18, donc lundi prochain, que les élèves vont vraiment officiellement rentrer dans les salles de classe.
Ce lundi, oui.
Et pour ne pas perdre le temps, hein, parce qu'avant ça ne se faisait pas, il fallait traîner pendant un mois, donc faire les listes, alors qu'on espère que le 18, les listes seront prêtes, les élèves seront accueillis, et puis les coupes commenceront directement le 18.
Donc ça veut dire que tout est prêt, le 18 c'est lundi. Hein,
et
tout,
oui, voilà. Les élèves vont venir, c'est la rentrée pédagogique.
C'est la rentrée pédagogique maintenant, merci beaucoup. Et quelle est votre appréciation du système éducatif centrafricain ces dernières années, monsieur Augustin Agou?
Monsieur Amandou, je vous remercie. Hein. Vraiment, c'est un débat très capital par rapport à notre pays, la République centrafricaine. La question de l'éducation, quand vous me posez, avant de vous répondre, si vous me permettez, Monsieur Amandou, revenons aux idéaux de notre père fondateur, Barthélemy Bouganda. Les cinq fameux verbes que nous connaissons tous. Il a commencé par instruire, sauf erreur de ma part. Instruire, ça équivaut, c'est l'éducation, c'est la formation. Donc, c'est le socle même de développement d'un pays. Mais seulement un pays ne se développe pas par hasard. Il faut programmer un développement. Et le développement d'un pays se reposera sur la qualité des hommes et des femmes qui sont dans le pays et qui sont bien formés et bien éduqués. C'est ceux-là qui vont apporter le développement par la qualité de rendement du travail. Et donc, si vous me demandez par rapport à l'éducation, mon point de vue, je dis que ça pose énormément de problèmes à Amando. Et nous allons entendre le détail. J'ai quelques chiffres que je vais donner pour étayer la lanterne de la population centrafricaine. L'éducation centrafricaine est en déclin depuis 1989. C'est-à-dire depuis 1989 que l'État n'a pas mis un accent particulier sur le système éducatif de notre pays, la République centrafricaine. Je donne à titre d'exemple, Armando, les ressources nationales allouées à l'éducation varier entre 2,6% jusqu'à 1,5%, donc depuis 1989, et donc de notre PIB, donc produit intérieur brut de la République centrafricaine. Et vous savez, 2% des ressources nationales allouées à l'éducation, ça va servir à quoi? Les conséquences, c'est qu'on n'a pas d'investissement, tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Et donc, nous avons un sérieux problème par rapport au système éducatif de notre pays, la République centrafricaine. Si vous me permettez, je vais vous donner quelques taux.
Allez-y, allez-y, vous avez
taux,
encore.
Taux brut d'escolarisation de nos enfants. Je vais vous dire, depuis, les choses ne bougent pas. Au pré-natal, c'est-à-dire l'école maternelle, par exemple, le taux est de l'ordre de 5,4%. Donc, ça veut dire que nos enfants ne sont pas préparés pour affronter ce que c'est que l'école. À l'école maternelle, le taux est de 5,4% seulement. Et donc, si je prends au niveau de primaire, le taux est intéressant au niveau de l'école primaire, ça se varie entre 85 à 87%. Maintenant, Armando, c'est ce qui est extrêmement grave. À l'école primaire, le taux d'inscription est de 87%, mais au secondaire, ça chute brutalement. Je prends pour le cas des garçons, par exemple, ça chute, on revient à 21,8%. C'est-à-dire de la sixième jusqu'en troisième, on revient à 21%. Et pour les filles, c'est extrêmement grave. Et de la troisième jusqu'en terminale, le taux varie entre 8,5% à 8,9%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre pays, nos enfants qui sont inscrits à l'école primaire, déjà, si nous avons 100 enfants inscrits à l'école primaire, seulement 25 qui vont atteindre le collège. Et les 25, la 6e qui vont atteindre 6e, jusqu'en terminale, on va se retrouver avec 8 enfants seulement qui vont rentrer à l'université.
Mais on y reviendra un à un pour voir quel est le problème, quelles sont les difficultés rencontrées pour que nous n'arrivions à ce niveau. Monsieur Emendota, sur cette question de l'éducation, d'abord votre constat du système éducatif centrafricain d'abord.
Bon, le constat, il est là, on le voit tous les jours, il suffit de circuler à Bangui ou dans l'arrière-pays où c'est nettement pire. Je relève quand même ce que M. Sopi a dit tout à l'heure. C'est pas la première fois qu'il y a des rentrées administratives et des rentrées pédagogiques. Je pense que chaque année, cela se fait. Moi, j'ai des petits-enfants que je sponsorise, entre guillemets, au niveau de Bimbo. Donc, l'année dernière, je donne une date. La rentrée scolaire 2020-2021, ça s'était déroulé à Mbaïki, si je ne me trompe pas. C'était le 2 novembre. Donc, on a quand même progressé au niveau de la date. Logiquement, une rentrée scolaire en République centrafricaine, c'est en septembre.
Plus
logiquement,
oui.
Logiquement, c'est toujours dans la première quinzaine de septembre. L'année dernière, c'était dû au Covid, c'était compréhensible. 4 mois sans aller à l'école, il fallait donc essayer de rattraper le temps perdu. Pour cette année, en octobre, je ne comprends pas très bien pourquoi l'année scolaire a été décalée jusqu'à ce niveau. Il y a eu des perturbations, sans doute au niveau politique, ça c'est possible, au niveau sécuritaire également. On note également que cette année scolaire s'est terminée un peu dans, selon certains établissements privés, publics, dans des conditions un peu chaotique, je dirais. Donc, de manière globale, je pense que le système éducatif en République centrafricaine a un sérieux problème. Nous qui sommes issus de ce système, parce que moi j'ai été formé entièrement en République centrafricaine, je dis bien entièrement, de l'école primaire à Kwango, disons du jardin d'enfants à Kwango, entre 71 et 72, il y avait l'école, mais vous arrivez actuellement, 50 ans plus tard, à Kwango, ce jardin d'enfants a disparu. J'écoutais ce matin le député de Ndjoukou se plaindre également, Ndjoukou qui n'est pas très loin de Kwango. Vous constaterez qu'il n'y a pas d'école dans ces différentes localités. Donc il y a un gros problème. Le président a fait un discours le 11 octobre. Il a donné un certain satisfecit, mais il a aussi reconnu qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Je pense qu'il reste beaucoup à faire et on reviendra au cours de ce débat.
Oui, Mikaël Kikobé, vous représentez les jeunes, les étudiants, les élèves aussi, parce que vous êtes le vice-président du Conseil national de la jeunesse de la République centrafricaine. Avec ce qui se passe dans le système éducatif, quelle est donc votre appréciation?
Monsieur Armando, il y a là quelques temps, quand on me pose une question relative à l'éducation en République centrafricaine, à la place de réponse, ce sont mes larmes qui coulent. c'est une manière de vous dire que le système éducatif en République centrafricaine est très malade. Je dirais même que ce système se trouve à la porte de la mort. Et donc, je ne suis pas très fier, justement, de ce que nous subissons comme formation en République centrafricaine. Je ne suis pas très fier du système éducatif en République centrafricaine. Le jeune centrafricain jouit d'une insécurité intellectuelle. Et parfois, je suis tenté de croire que les gens veulent expressément, justement, boycotter notre avenir. Parce que, à leur temps, ils ont bénéficié justement d'une formation de qualité. Aujourd'hui, tu ne peux pas comparer justement le niveau intellectuel d'un ancien de 80, 91, etc. à celui justement de 2000 ou encore 2021. Et donc, il y a une nette différence et ça ne fait pas la fierté de la jeunesse.
Cette nette différence-là, selon vous, c'est quoi ?
Cela est dû
à quoi, par exemple ?
Cela est dû, justement, à la volonté, non seulement à la volonté politique, mais aussi à la volonté des anciens, à la volonté des anciens qui sont censés disposer les cours aux élèves. Moi, si j'étais un enseignant et qu'on parle d'une formation, je vous assure que je ne serais pas content. Parce que quand tu enseignes un élève et qu'on traite cet élève-là d'un idiot, ça veut dire que toi-même, tu es plus idiot. Ça veut dire que tu es deux fois idiot que la personne que tu as eu à enseigner. Et donc, cela est dû non seulement à la volonté politique, mais aussi au niveau d'engagement de nos anciens.
Nous allons évoluer, mais je vous propose de suivre l'extrait du discours du président de la République, Faustin Archange-Touadéra, lors du lancement officiel de la rentrée scolaire 2021-2022 au lycée de Miskine, ici à Bangui.
Toutes les inspections académiques se sont partagées 6100 tables bancs et 112 000 manuels d'histoire et géographie conçus par les pédagogues centrafricains de l'INRAP. Des efforts sont faits en vue de poursuivre cette dotation à environ 14 000 tables bancs et de nouveaux manuels en français et en mathématiques pour le premier cycle d'une part et des manuels de langage et calcul pour le fondamental 1 d'autre part. Les inspections d'académiques vont passer de 8 à 20. Des restructurations se feront au niveau de certains établissements du secondaire et primaire, voire de l'éducation de la petite enfance, la création d'une direction en charge de la cantine scolaire permettant de veiller au maintien des élèves à l'école.
Voilà, c'était donc le chef de l'État, Faustin Archange-Touadéra, dans le débat politique de Radio Ndekeluka. Je reviens vers vous, Monsieur Romain Sopio. Vous avez écouté le chef de l'État qui a fait un bilan, hein, on peut le dire, de ce qui s'est passé ou de l'année académique écoulée. Voilà, quelle est donc votre réaction avant qu'on ne puisse rentrer dans certaines questions de ce débat ?
J'aimerais revenir peut-être ce que sur la jeune a dit peut-être plus tard. Mais en ce qui concerne les déclarations du chef de l'État, bon, les gens ont beaucoup parlé, hein, commenté le passage de 8 à 20 inspections académiques. C'est possible, dans la mesure où c'est une décentralisation. La décentralisation, c'est quoi ? Il faut rapprocher les structures de la population. À l'époque, on gérait tout en distance au niveau de Bangui, mais maintenant, la décentralisation permettra de se rapprocher des populations, de prendre des décisions au niveau de la population. Quand quelqu'un veut ouvrir un établissement, il ne faut pas trop que l'autorisation vienne du ministre. Ça peut être traité sur place. Et c'est très important. Donc, d'après ce qu'on m'a dit, on paraît qu'on a créé 14 préfectures. Donc, ça fera 20.
Non, oui, ça fait 20 préfectures
donc,
déjà.
Ça fait déjà dit que chaque préfecture aura son institution académique décentralisée. Et il y aura les CPR aussi qui seront capables de prendre des dispositions pour essayer de corriger et renforcer le système éducatif. C'est une bonne chose. Donc, on rapproche. Mais il faut que la décentralisation soit réelle. Il faudrait que le ministre confère des pouvoirs aux inspecteurs d'académie. Il ne faut pas qu'ils deviennent seulement les boîtes à lettres. Voilà. Donc ici, il y a une situation qui nécessite une correction sur place. L'inspecteur d'académie doit être capable de prendre de ses responsabilités. Donc c'est faisable.
C'est faisable. Monsieur Mendeta, sur cette question, l'extrait du discours du président de la République.
Oui, j'ai écouté le président de la République.
Il a avancé certains chiffres.
En direct le 11 octobre et puis j'ai pris beaucoup de notes, notamment dans la question de la distribution des ouvrages scolaires. Je suis venu avec l'un des ouvrages mentionnés par le président de la République, Histoire, géographie, éducation à la citoyenneté, la culture de la paix et au dialogue interculturel CM1, CM2. Ce manuel, je l'ai acheté. Je ne sais pas si c'est vendu ou c'est distribué. Ça, c'est la première chose.
Et c'est vendu c'est sur le marché, hein.
Sur le marché centrafricain. Je l'ai acheté le 23 janvier 2021 sur le marché centrafricain par des vendeurs en à la sauvette. Mmh. Mais vous retrouvez, vous circulez sur, parmi les bouquinistes qui étalent leurs livres au niveau du centre-ville ou un peu partout, vous allez trouver ces documents. Ça, c'est la première remarque que je fais. Parce que je sais que de l'argent a été injecté pour élaborer ces différents documents. C'est vrai, il a donné des chiffres, tel nombre a été distribué, ainsi de suite. Non, c'est pratiquement vendu. Et même dans certains établissements, c'est vendu. Est-ce que c'est la politique du ministère de l'Éducation ? Je ne le pense pas. Sauf si M. Sopio me démente en disant qu'il y a un tarif pour acheter des livres de mathématiques, d'histoire et de géographie, mais celui-là, je l'ai acheté. Je ne vous donne pas le prix à laquelle, parce que j'ai marchandé pour l'acheter. En voyant ce document, c'est un très beau document. Mais par rapport au discours du président de la République, je suis conscient que c'est difficile actuellement. Mais tout revient toujours à la question de la gouvernance. De manière globale, même au niveau du secteur éducatif, on peut décentraliser, on peut créer mille et une inspections académiques, mais tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance à ce niveau, cela ne servira à rien. À une certaine époque, à notre époque, le jeune qui copait a dit, nous qui avons été formés à telle époque, à cette époque-là, il n'y avait pas 20 inspections académiques. Les inspections académiques étaient même plus restreintes, mais qui fonctionnait. Comme l'a dit M. Sopio, il ne faudrait pas que le ministre, on attende que le ministre donne des instructions de Bangui pour qu'au niveau de Mobaye ou de Birao, on puisse agir. Et donc, il faut laisser la possibilité à ces inspections. Moi, j'ai eu...
L'autonomisation de chaque inspection.
L'autonomisation à tous les niveaux. La décentralisation, c'est ça. La décentralisation, ce n'est pas seulement au niveau politique, au niveau des mots. C'est au niveau de la gestion, de la gouvernance. Cette décentralisation a toujours existé. Jusque dans les années 80, les inspecteurs d'académie allaient dans les différentes écoles, ils venaient par surprise, ils contrôlaient les élèves, ils contrôlaient les enseignants, ils se mettaient au fond de la salle, parfois incognito. Ça existait, mais depuis bientôt une vingtaine d'années, cela n'existe plus.
Excusez-moi de vous couper pour ne pas que je perde le fil. Est-ce que ça se fait, ces inspections au sein de l'école, ça se fait aujourd'hui, M. Sopio?
Oui, je suis inspecteur général de l'éducation nationale. C'est une mission de contrôle et de suivi. Et vous savez, compte tenu des difficultés, nous n'avons pas le moyen de remplir cette mission sur toute notre ligne du territoire. L'année dernière, on
Quel moyen, par exemple? Roulant?
Mais moi, inspecteur général, les gens, tout le monde sait à Bangui que je suis à pied. Je suis ici en moto. Et puis les inspecteurs sont à pied, ils font parfois en moto. Et l'année dernière, on a fait des efforts, on a cotisé 25 000 francs, 25 000 francs par inspecteur. On a poussé le contrôle jusqu'au niveau des Damaré et de Mbaki.
Personnellement.
Par notre propre moyen, oui. À des minibus, on est allé jusqu'à Pomari.
Je continue.
Au niveau de Bangui, le travail se fait. On a des inspections, je connais la situation.
Malheureusement, ce n'est pas à tous les niveaux, au niveau de toutes les inspections. Bon, c'est ça ce que j'appelle la gouvernance, la bonne gouvernance. Tout est question de gouvernance. Je reviens toujours en arrière, dans les années 80-90, c'est pratiquement les mêmes inspections qui ont existé, mais qui faisaient leur travail avec abnégation, avec beaucoup de patriotisme. Maintenant, il y a eu la crise qui est intervenue, qui ne permet pas malheureusement de gouverner ce pays de manière normale. Voilà le gros problème, c'est la gouvernance. Moi, je suis à Bimbo, je fréquente régulièrement l'école préfectorale de Bimbo. Pas plus tard qu'hier, je suis allé là-bas, mais allez voir dans quel état cela se trouve. Plusieurs fois par jour, je fais des tours, il n'y a pas eu d'inspection au niveau, par exemple, de l'école préfectorale de Bimbo, une fois. Pire encore, au niveau d'une école privée qui s'appelle le complexe Gabriel Péou, où il y a mes petits-enfants qui sont là-bas, j'ai essayé de vérifier s'il y avait des inspections. Il n'y a jamais eu d'inspection l'année dernière. Voilà le problème. Donc, c'est une question de gouvernance et de volonté.
Donc, il y a un laisser-aller qui se...
Non, je pense pas un laisser-aller, mais je pense un certain découragement. Comme le dit M. Sopio, il y a de l'argent dans ce pays, mais on met l'argent quelque part, peut-être dans la poche de certaines personnes,
mais pas
pour le système éducatif, pas pour donner aux enseignants.
Monsieur Kikobé, sur l'extrait du discours du président de la République, il a avancé certains chiffres, des tables et bancs, des manuels didactiques distribués, tout et tout.
Déjà, je tiens à noter que j'ai trouvé le président de la République très objectif dans son discours à l'occasion de la rentrée académique 2021-2022. Tous les chiffres qu'il a eu à avancer, je le retiens encore, ils sont vraiment objectifs. Et j'ai souligné aussi quelques aspects que je trouve très pertinents. Dans son discours, il a parlé de l'engagement collectif, des parents, des élèves et aussi des autorités politiques. Et donc, à mon avis, il a avancé ses chiffres, il a spécifié dans son discours, il a jeté un regard rétrospectif sur ce qui s'est passé et il a fait une projection. Voyez. Et donc, c'est une manière de dire que voilà. Ce que nous avons enregistré et ce que nous voulons faire, nous ne pourrions que l'atteindre à travers un engagement collectif et de tous. Donc il faudrait que les enseignants s'impliquent davantage. Les élèves, il faudrait qu'ils aient aussi cette volonté justement de faire d'apprendre. Et aussi, il faudrait qu'il y ait un suivi de la part des parents. Et donc, c'est ce que je pourrais dire sur...
Voilà.
J'aimerais rebondir sur ce que le jeune tout à l'heure, parce qu'il a, tout à l'heure, il a dit quelque chose, il a mis en cause les enseignants qui ne sont pas motivés. Effectivement, ils sont démotivés. Hein. Les enseignants, ils trouvent qu'ils ne sont pas mal payés, ils sont mal payés, ils sont démotivés, on le comprend. Mais je pense que la communauté éducative est composée des enseignants, des élèves, des parents. Et comme Dota a dit si bien tout à l'heure, il a fait ses études dans les années 70, qu'est-ce qui se passait ? Il n'y avait pas le confort que nous connaissons en ce moment. Quand tu passais dans la rue, là, le soir, sous les lampadaires, une école, les gens étaient en train d'étudier. Mais maintenant, tu vois les élèves, même les panneaux solaires, là, étudier. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est écouter, coiffer le midi. Même quand tu passes dans les établissements, passer un jour le matin, il y a des filles qui sont là, assises sous les pannes pour se tresser. Vous avez quitté vos parents à 6 heures du matin là-bas pour venir à l'école, pour venir se tresser. Voilà, le comportement aussi doit changer, suivre ce qui se passe aussi.
Non, c'est pas. Mais au sein des établissements, par exemple, si c'est au lycée, il y a des surveillants généraux. Hein. Qu'est-ce qu'ils font ?
Parfois, il y a des écoles qui ont 10 000 élèves hein, pour gérer tout ce monde-là. C'est tout un problème. Hein. Il y a un ministre de l'Intérieur qui disait à l'époque, un ministre Mbeiro, que vraiment, l'éducation nationale, c'est une armée sans armes. C'est pas facile hein, de gérer 10 000 élèves. Hein. Quand elle vient ici, voilà, les professeurs ne sont même pas respectés. On ne se tient pas la main par le cou, filles et garçons. Moi, je ne faisais pas à l'école. Quand on voyait le maître en courant se croiser le bas, dire bonjour, monsieur, ça allait, on partait. Mais maintenant, ça ne se fait pas du tout. Hein. Donc, même on te bouscule. Et puis voilà. Donc, je pense que la mentalité doit changer. Et tout à l'heure, monsieur Ndo, t'as parlé de livres vendus. Mais moi aussi, hein, tout le monde me connaît. Je vais régulièrement sur le terrain. Le livre, là, c'est bien écrit. C'est la propriété du ministère de l'Éducation nationale. C'est distribué gratuitement. Mais les gens vendent. Est-ce que c'est le ministre de l'Éducation qui leur a demandé de vendre ? Une fois, j'ai fait des saisies. Mais j'ai failli me faire lyncher. Attends, Zaz va débrouiller. Et puis, il y a la mentalité des anciens aussi. Ce n'est pas la première fois qu'on achète des livres. J'étais dans un projet PAPS en 2012 avec 17 milliards. On achetait 1 300 000 livres. C'était la première fois en maths de calcul. Chaque Centrafricain avait un livre de calcul, un livre de maths. Et je suis dans une localité que je ne suis pas du tout. On a visité des salles qui visitent à l'improviste. On a dit, mais où sont passés les livres ? Oh, ils sont dans l'armoire. Mais dans l'armoire ? Mais pourquoi tu mets dans l'armoire ? Pour que ça ne se salisse pas. Mais dis donc, c'est pour les élèves. On a ouvert l'armoire, c'était bouffé par la termite. C'est pour les mentalités doivent changer. C'est pour les élèves. S'il y a la tâche, ça montre que voilà, c'est utilisé. On fait dans l'armoire. Moi, il faut que changer de mentalité aussi.
Monsieur Agou, sur l'extrait du discours du président.
On peut faire revenir en arrière. Je vous ai donné des précisions, des chiffres qui ont commencé depuis l'année 1989, c'est ce que j'ai dit. Et Armando, les discours qu'on a toujours eu dans notre pays, la République centrafricaine. Le problème qui se pose aujourd'hui, on peut bien faire des projections, on peut bien faire des discours, mais il faut que cela soit suivi par des moyens. Je venais de vous dire que les ressources nationales qui sont allouées à l'éducation de notre pays se tournent entre 1,5 à 2% de notre PIB, produit intérieur brut. Alors, M. Armando, avec ça, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez avoir 20, 40 expressions comme vous voulez, mais ça ne résout pas le problème de fond. Alors, donc, aujourd'hui, lorsqu'on parle des inspecteurs, mais cela, c'est que théoriquement, les inspecteurs, comme M. Zubu vient de dire, aujourd'hui, les inspecteurs sont là sur papier. Si vous me permettez, c'est comme vous allez au département du ministère des Travaux publics, hein, quand on fait le mouvement, on va vous citer des noms des ingénieurs. Mais qui sont là que sur papier ? Quand vous allez au ministère de l'Agriculture, en fait, le mouvement, on va vous donner des noms des ingénieurs hors hiérarchie. Et donc, puisque ces inspecteurs-là n'ont pas de moyens, M. Armando, M. Supi vient de le connaître ici, ils n'ont pas de moyens pour le déplacement. Il y a un autre problème également, le ratio. Le ratio, la qualité des enseignants. Aujourd'hui, dans notre pays, 40% de ceux qu'on les appelle des enseignants sont des maîtres parents. Je ne sais pas si vous me suivez.
Je vous
40% de ceux qu'on les appelle des enseignants sont des maîtres parents sans formation, sans qualification. Un inspecteur est censé aller inspecter qui ? Il est censé aller inspecter celui qui a été régulièrement formé dans une école professionnelle, qui a les qualités. Or, je vous dis, 40% sont des maîtres parents. Et donc, ça pose problème. Et ce ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Et donc, un inspecteur, il va faire quoi ? Ça, c'est un. Et le ratio nombre d'élèves par salle de classe est de l'ordre de 145 élèves par salle de classe. 145 élèves par salle de classe. À ce moment-là, l'enseignant lui-même est déjà dépassé. Il n'aura pas le temps nécessaire pour prendre le cahier, comme disait le vice-président Kikobé. De Sikikobé,
prendre le cahier comme nos anciens faisaient entre-temps. Moi, quand j'étais au lycée, lorsqu'on faisait les compositions, les examens, le professeur, même si tu oublies de mettre ton nom, le professeur connaissait l'écriture de chaque élève. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Vous vous retrouvez avec 145, 150 élèves.
Pour le contrôle 1 à 1, vous ne pouvez pas.
Pour le contrôle 1 à 1, vous ne pouvez pas. Et donc ça, c'est un problème vraiment qu'il faut résoudre d'abord. Donc il faut commencer d'abord par mettre les moyens. Augmenter les ressources allouées à l'éducation nationale. Si les ressources sont augmentées, si les inspecteurs... Les ressources financières, justement, ont suffisamment de moyens. Avant, tous les inspecteurs avaient des moyens roulants. Je me rappelle, ils avaient des pick-up 4x4 et qui, ça leur permettait de circuler un peu partout dans les régions. Aujourd'hui, les manuels dont on parle, je ne cite pas quelque chose que j'ai visité moi-même, il y a quelques mois de cela, il y a un seul manuel pour 10 élèves. Je connais une école dans une préfecture, je dis bien préfecture, où il y a un seul enseignant titulaire de CI jusqu'à CM2. Il est le seul enseignant titulaire et il est le même temps de directeur de cette école-là. Tout le reste, c'est les maîtres parents. Vous voulez qu'un inspecteur va faire quoi? Et à ce moment-là, un inspecteur va aller inspecter qui? Puisque celui qui est là, maître parent, n'a pas été formé dans une école professionnelle et il n'a pas de qualification. Ils vont faire quoi?
Oui, M. Sopio, vous voulez réagir, hein, je vois.
Oui, rapidement. Je vois que le député a préparé sa fiche, hein, il s'est bien préparé pour ce débat-là. Mais quand on cite des chiffres, il faut décliner les sources. D'où est-ce qu'il tire ces informations?
Mais c'est sûr que vous allez à l'UNICEF.
Il ne faut pas dire 2%, 3%. Donc il faut.
Est-ce que vous êtes inspecteur de l'enseignement général?
Oui, je sais que.
Vous connaissez, est-ce que vous pouvez démentir que
je sais que les ressources sont tombées, mais c'est à l'image des difficultés qu'on a notre pays. On peut pas.
J'ai bien dit, c'est depuis 1989, voilà. M. Sopio, que les ressources qui sont allouées à l'éducation.
Je ne vous ai pas interrompu, monsieur le député.
Allez-y.
Et à l'époque de Kolingba, il a fait des efforts. Il faut reconnaître, c'est pas parce qu'il n'est pas au pouvoir qu'il faut pas.
Mais le taux était combien?
Est-ce qu'on peut parler
c'est
du monté, moment?
C'est approché même de dépasser le 20%. Et dernièrement, au niveau de Dakar, Forum international, le président Touadéra s'est engagé à augmenter constamment le taux de ressources, le pourcentage de ressources de l'État consacré à l'éducation nationale. À votre époque, et puis il y a des écoles en duplex. Et récemment, si vous allez au lycée technique, vous allez voir, bientôt, on va être vraiment équipé des ATV qui sont réparés. Les lycées techniques pourra réparer non seulement des véhicules, des motos. Et Renault va nous livrer 10 moteurs, alors que jusqu'à présent, on travaille sur un seul moteur avec le seul lycée technique de Bangui. Donc, il y a eu des efforts qu'il faut faire. Il faut saluer ces efforts-là, au lieu de toujours de regarder vers le passé et de voir que tout est négatif, ce n'est pas nul. L'année dernière, il y a eu une fille centrafricaine qui a été au lycée de Martigues, qui a passé le bac français. Elle a vu 20 sur 20 en maths financières. Elle a réussi même prix, elle a un voyage en France. Nous ne sommes pas aussi nuls que ça. Donc, il faut être optimiste. Encourager les autorités à poursuivre les efforts au lieu de dire de tirer par les derrière que non, tout est négatif, c'est qu'on jette, on maudit notre pays, c'est mauvais.
Mais je reste avec vous, lorsque vous parlez des avancées, mais nous parlons aussi du manque d'enseignants qualifiés, manque de matériel didactique, d'infrastructures, etc. Tous ces manquements, qu'est-ce qu'on peut craindre sur la qualité de l'enseignement en République centrafricaine?
Et vous savez, il n'y a pas de mystère. Hein. Vous savez que l'effectif, contrairement à ce qu'on dit ici, l'effectif ne cesse d'augmenter. Au fondamental, on a dépassé les millions d'élèves maintenant. Or, les enseignants, on a ce que l'école normale de formation des instituteurs à Bambari.
Oui.
Alors qu'il fallait au moins dans... J'espère que quand on aura des inspections d'académie, il y aura aussi des écoles normales dans toutes ces académies, que chaque région, chaque professeur soit capable de former les enseignants dont il a besoin, or que ce n'est pas le cas. Il y a 100 seulement pour une capacité de 100-150, c'est vraiment largement insuffisant.
Et mais qu'ils ne sont pas tous intégrés par an, en fait.
Mais voilà. Mais c'est les difficultés économiques qui font que vraiment l'intégration, les institutions financières nous disent non, bon, voilà, la masse salariale, il faut se voyer. Et on parle de la baisse des qualités. Mais la conséquence, c'est la décision sous les directives de la Banque mondiale, on était obligé d'avoir, soit le départ volontaire à la retraite. Mais tous les enseignants qualifiés étaient partis. C'était une hémorragie.
Et donc vous rejoignez en ce moment, M. Abgou, qui parle de
difficultés. Mais je reconnais. Mais nous sommes en train de remonter la pente. Oui. Mais il faut reconnaître de saluer ces efforts-là au lieu de voir le passé. Nous sommes en train de remonter la pente.
Quelques secondes avant de donner la parole à M. Kikoubé.
Je voulais repréciser les choses ici. Arrêtons tout le temps de mettre tout sur le dos de l'insécurité de ceci. Vous n'allez pas me dire ici que 1989, il y avait déjà la rébellion des CPC qui a existé en 1989. Je vous ai précisé, et puis M. Supi a parfaitement raison, on ne peut pas m'inviter dans un débat et que je dors comme ça, je me lève comme ça, venir commencer à raconter des histoires qui ne tiennent pas debout. Je dois quand même me préparer, je dois lire. Effectivement, je vous l'ai dit, que depuis 1989, j'ai pris le temps. J'ai été député, j'ai regardé les budgets de notre pays, et j'ai regardé les ressources nationales. C'est-à-dire que je parle du budget alloué au département de l'éducation n'ont jamais dépassé 3% de notre produit intérieur brut des ressources nationales. Ça veut dire que c'est un problème. Ça veut dire que nous avons, le ministre de l'Éducation n'a pas de moyens financiers pour faire des investissements, pour construire des salles de classe, former les enseignants en quantité suffisante et en qualité, pour réduire les nombres d'enfants dans la salle de classe également. Donc, ça, c'est des problèmes réels qui n'ont rien à voir avec le gouvernement actuel. Ne ramenons pas, parce que lorsqu'on parle ici, les gens pensent que, bon, on est là pour critiquer un homme. Non, un homme passe, mais le pays demeure.
Les institutions restent.
Et donc, je termine la main de
rapidement terminer. Je vous
si vous voulez, faisons une comparaison entre les pays africains. C'est un problème de manque de vision de nos leaders, de nos dirigeants. Je prends le cas du Sénégal. Le président Senghor du Sénégal, un visionnaire, il sait que pour développer un pays, ça passe par la qualité de la formation. Qu'est-ce qu'il a fait? Le président Senghor avait envoyé beaucoup de jeunes Sénégalais dans le monde entier pour être formés. Ils sont revenus chez eux aujourd'hui, ils sont des formateurs dans leur pays. Vous comprenez? Je donne le cas de budget que le gouvernement sénégalais donne au ministère de l'Éducation nationale. Ça fait 450 milliards de francs CFA. Ça dépasse largement le budget national de la République centrafricaine. Rien qu'un seul ministère de l'Éducation nationale sénégalais, le gouvernement sénégalais octroie 450 milliards. Alors donc, c'est naturel. Quand vous arrivez, c'est pourquoi vous voyez les Sénégalais un peu partout dans les organismes, l'UNICEF, l'OMS, partout, vous voyez que nos compatriotes de l'Afrique de l'Ouest, les Sénégalais, les Maliens et autres. Donc, c'est ça qu'il s'agit.
Oui, M. Kikobé, lorsqu'on parle du manque d'enseignants qualifiés, du coup, on regarde ou on indexe la formation au rabais des élèves. Est-ce que c'est le même constat, vous, au niveau du Conseil national de la jeunesse, vous avez fait?
M. Armando, avant de répondre à votre question, permettez-moi de rebondir.
Oui, allez-y.
Ce qu'a dit l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur, excusez-moi, mais je vais être franc et clair avec vous. J'ai constaté un manque de patriotisme dans votre intervention. Parce que quand on est patriote, parfois on est obligé de se sacrifier pour sauver la cause nationale ou encore pour protéger l'intérêt de la nation. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'a pas mis les moyens à votre disposition, les moyens qui peuvent vous permettre justement de travailler à votre disposition, qu'on n'ait pas fait votre travail. Monsieur l'inspecteur, vous savez que l'État vous accorde des indemnités sur votre salaire. Et même si on ne met pas à votre disposition justement les moyens roulants, mais vous pouviez aussi utiliser les moyens de bord, justement pour assurer, ne serait-ce qu'une bonne inspection au niveau de la capitale. Vous voyez, vous n'avez pas fait, bon, vous avez vos raisons, mais moi, en tant que jeune, en tant que centrafricain, je dirais que ça c'est un manque du patriotisme. Pour revenir à votre question, monsieur Armando, je l'ai dit d'entrée en jeu, que quand un élève subit une formation au rabais, la faute incombe à l'enseignant. Mais c'est parce que nous avons des enseignants, maintenant nous avons eu des enseignants qui ont été très mal formés, alors qui transmettent leur médiocrité aux élèves, vous voyez. Et donc, à mon avis, ce sont les enseignants qui font à ce que nous ayons ce résultat. Et dans le temps jadis, vous voyez, on était nos anciens étaient obligés d'étudier parce qu'ils subissaient aussi des pressions émanant de leurs enseignants. Oui. Tu étais obligé d'étudier parce que tu sais, tu, dans ta tête, tu sais pertinemment que demain, tu auras des interrogations. Et que si demain, tu n'arriverais pas justement à répondre, tu pourras bien, tu risquerais bien fort de subir certaines sanctions. Oui. Mais maintenant, comme ils savent qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de niveau, mais ils ne peuvent pas mettre la pression sur les élèves. Et bon, en conséquence, nous ne pourrons qu'avoir le résultat que nous connaissons à l'heure actuelle.
Monsieur Emendota, oui. Sur la question de formation, qualité, manque d'infrastructures, tout et tout.
Je reviens toujours à la question de gouvernance. Tout dépend de la gouvernance. C'est vrai, il faut un changement de mentalité. Bon, le lycée de Miskine, c'est un joyau, 1,450 milliard qui a été financé en grande partie par l'Union européenne. C'est comme si en RPR, on n'avait pas 1,450 milliard. On sait bien qu'il y a des gens qui dépensent cet argent-là par mois pour des futilités. Donc, je me sens pas fier. Je me sens pas fier lorsque l'on dit que voilà, on a un bijou à étage. Bon, moi j'ai été au lycée de Barthélemy Boganda en 1980-81. Je suis revenu comme élève en quatrième. Je suis revenu en 89-90 comme enseignant, seconde, première, terminale. Je n'avais que 23 ans. Mais regardez le lycée Boganda actuellement. Avant, il y avait tout. Il y avait les laboratoires d'analyse, il y avait tout. Idem pour le lycée technique que je n'ai pas fréquenté, mais que je visitais de temps en temps. Qu'est-ce qu'on a fait pour que le lycée technique garde son lustre d'antan? Rien du tout. On a plutôt privilégié la cannibalisation de ces institutions-là. Le lycée Miskine, moi je suis en train de prédire, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, si on ne fait pas attention, dans un mois même, on aura un lavabo qui va disparaître. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la gestion, au niveau de la gouvernance étatique, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de contrôler, il n'y a pas de sanctions. Demain, on mettra je ne sais pas qui à la tête de ce lycée, on viendra, on volera, personne ne se souciera, ne serait-ce que de sanctionner. C'est pour ça que maintenant, aucun élève, aucun enfant ne respecte plus rien parce qu'ils savent que, bon, mais comme on vole en haut, mais nous aussi on peut voler en bas. Voilà un peu la mentalité. Donc, les infrastructures, je reviens à l'histoire des tables bancs. J'ai vu des tables bancs au niveau du lycée de Miskinaton. Pour un lycée de cette envergure, ce n'est pas ce genre de tables bancs que l'on met dans un lycée moderne. Il y a maintenant des bancs modernes, surtout qu'on a du bois ici. Allez devant l'INRAP, allez voir maintenant. Il y a un hangar avec plein de tables bancs qui sont là pratiquement depuis 2 ans et demi, avec la pluie, les intempéries. Un jour, j'ai fait un message sur mon compte Facebook, WhatsApp. Ça m'a attiré le foudre de certaines personnes. Mais la réalité est là. Ils sont en train de se détériorer. Et même si on remet ces tables bancs dans les lycées, au bout de 1 mois et demi, oui, 2 mois, ça se casse. Allez dans tous les lycées de Bangui, les écoles de Bangui, vous voyez qu'il y a plein de tables bancs qui sont cassées et qui sont là.
Monsieur Ndota, je reste avec vous. On va faire le tour pour redonner la parole à Monsieur Sopio. Le sango est devenu officiellement une langue d'enseignement. Quelle est donc votre appréciation?
Mon avis personnel, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Le sango, moi j'ai parlé de sango dès petit enfant et c'est à l'école que j'ai appris le français. Si on veut apprendre le sango, c'est bien. Si on veut faire de la littérature, on veut faire ceci... Soit dit en passant que j'ai appris également le sango phonétique, le sango littéraire à l'université de Bangui. Oui. Deuxième année, licence, maîtrise, on avait des modules en sango. Mais introduire le sango alors qu'on n'a pas encore résolu le problème de l'éducation en tant que tel à travers le français, on va parler le sango pour aller parler à New York le sango? Non, pas du tout.
Kikobé, sango, maintenant dans l'enseignement en Centrafrique.
Je crois que je reprendrai dans le même sillage que M. Ndota. L'introduction de la langue sango, justement, dans l'éducation nationale n'est pas une solution holistique au problème de l'éducation. Je le réitère, la solution holistique, c'est l'engagement de tous. C'est la volonté de tous. Il faudrait que nous ayons un sens de patriotisme. Il faudrait que nous mettons dans notre tête qu'en sauvant le système éducatif, c'est une manière de sauver le pays. Et donc, on peut bien introduire sango, voire même Bayaou Yakouma. Mais tant qu'on ne touche pas le vrai problème qui est à l'origine de cette destruction, de ces secteurs, mais on ne résoudra jamais le problème éducatif. On
peut Monsieur Augustin
Armando, la réponse va de soi parce que ça n'a pas de sens pour moi. Et donc, Monsieur Armando, je disais l'introduction de sango à l'école pour l'enseignement. Moi, ça m'étonne. Ça n'a aucun sens. Hein? J'ai mes enfants qui sont là. Je n'ai jamais appris à mes enfants de parler sango. Ça va de soi. C'est une langue nationale. Un enfant qui est
déjà
né...
Déjà à base de 1 an, 2 ans, il commence à parler sango.
Mais il commence à parler naturellement. On n'a pas besoin de lui apprendre à parler sango. C'est une langue nationale. Vous arrivez à Birao, vous allez écouter les gens parler sango. Vous allez en délire, les gens vont parler sango. Je ne vois pas. Ce n'est pas ça le problème de fond, comme disait mes confrères ici. Ce n'est pas ça le problème de fond. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, j'écoutais sur les ondes de Kelouka ce qui s'est passé à l'université, où un responsable a affiché des noms de ceux qui sont admis et que son collègue est arrivé pour lui dire non. Mais les noms des gens-là, je les ai vus. C'est des gens qui travaillent dans les ONG en province et qui ne sont pas à Bangui, ils n'ont jamais composé. Comment tu peux afficher les noms qui sont admis? Vous voyez, c'est ce genre de problème. Les notes de complaisance où on donne aux élèves, parce que tous ces problèmes de fond-là, nous devons d'abord résoudre. Nous avons un problème de fond. Ça commence d'abord par augmenter les ressources financières allouées à ce département-là. Il faut augmenter les ressources, former, recruter les enseignants qualifiés. C'est ce que vous avez oublié ici. À un moment donné, l'inspecteur est là. Alors, la Banque mondiale donne de l'argent à la République centrafricaine et je ne sais pas pour quelle raison on va commencer à recruter les gens au niveau 6e, 5e, 4e et on les amène rapidement en quelques mois et ils sont devenus des anciens. Et puis pire encore, mais l'inspecteur ne peut pas me démentir cette fois-ci, les gens, les formateurs qu'on les avait recrutés, qui sont censés former ces jeunes qu'on a recrutés pour être des enseignants, ils n'ont pas terminé le cursus parce qu'ils n'ont ils ont pas été payés. Ils ont abandonné ces jeunes filles, garçons, en cours de route.
Et qui sont devenus des anciens aujourd'hui.
Ils sont devenus des anciens aujourd'hui.
Et donc, pour vous, c'est un problème.
Hein. Mais c'est vraiment grave.
Mais excusez-moi, parce qu'il y a d'autres questions. On va donner maintenant la parole. Mais il faut que je vous donne 3 minutes pour que vous balayez rapidement tous les points de vue ici sur l'introduction de Sango dans l'enseignement en Centrafrique.
Je prends acte. Hein, le jeune m'a traité de manque de patriotisme. Vous savez que je suis engagé dans l'éducation nationale à l'âge de 25 ans. J'étais le premier directeur des affaires africaines de l'université. On a essayé de me débaucher, partir aux autres ministères, j'ai refusé. Je suis resté jusqu'à poursuivre toute ma carrière au niveau de l'éducation nationale. Et les CAPES à l'ENA, je peux vous citer les initiatives que j'ai prises. Vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que je vous vois. C'est parce que vous ne me connaissez pas. J'ai même fait la prison pour mes idées. Vous ne me connaissez pas. Bon, en ce qui concerne...
Le Sango maintenant, comment cela va se faire?
Mais c'est tout à fait légitime. C'est notre langue. Nous devons aimer notre langue. Essayer de faire des efforts pour que notre langue soit vraiment maîtrisée. Mais c'est difficile, la faisabilité qui va se poser des problèmes. On n'a pas dit qu'en introduisant le Sango, on va résoudre tous les problèmes. Et d'ailleurs, nous sommes en retard.
Mais pourquoi l'introduction du Sango, selon vous?
Mais nous sommes en retard. La réalité, dans beaucoup d'établissements ici à Bangoum, même privés, ils enseignent le Sango. Même l'école turque, ils enseignent le Sango.
C'était un établissement où nous sommes en retard. Enseigner le Sango ou utiliser la langue Sango pour l'enseignement. C'est ça que nous voulons savoir.
On va mettre la stratégie. Bah, je ne peux pas maintenant ici. Hein, on a lancé les idées. C'est à nous, les techniciens, maintenant, de faire des propositions.
Non, je ne sais pas si je peux reformuler ma question. On enseigne Sango ou on utilise la langue Sango pour enseigner dans la salle? Parce que ça fait deux choses différentes en fait.
Bon, quelle est la différence vous faites?
Est-ce que c'est le Sango, on va apprendre maintenant Sango dans la salle, comme langue, ou bien c'est comme l'anglais, comme le français, ou bien on va enseigner seulement le
Sango? C'est aux techniciens maintenant de produire ce travail-là, mais moi, je pense que c'est tout à fait légitime, hein, c'est notre langue. On enseigne bien l'anglais, l'espagnol, l'allemand, mais pourquoi ne pas enseigner le Sango?
On appelle ça mettre la charrue.
Nous sommes en retard. Certains établissements, déjà au niveau de Bangui, sont en avance. Ils enseignent le Sango.
Donc on va apprendre maintenant Sango à l'école.
Tant qu'il n'y aura pas de manuel, il faut les former les enseignants. Ça ne veut pas dire qu'à la sortie de cette rentrée-là, tout de suite, on va commencer à enseigner le Sango. Il faut préparer les conditions. Il faut les manuels, il faut les enseignants former pour transmettre cette langue aussi. Et puis, ce n'est pas seulement le Sango. Vous savez ce qui s'est passé au Tunisie? Les jeunes se sont mis en grève. Pourquoi? Parce que quand ils vont demander du travail, on leur exige l'anglais, qui est devenu l'anglais universel. Ils ne maîtrisent pas l'anglais, ils ne peuvent pas être embauchés. Mais ça pose un autre problème aussi. Hein. Et beaucoup de Centrafricains ne trouvent pas dans les organismes internationaux parce qu'on ne maîtrise pas l'anglais. Notre apprentissage, notre métier d'anglais de nœud rudimentaire, ce n'est pas seulement le Sango. Hein. Maintenant, il faut amener nos enfants à parler plusieurs langues.
Oui, monsieur. Voilà.
Et le Sango aussi.
Armando, je comprends l'inspecteur. Si au moins c'était l'anglais, si c'était l'anglais qu'on avait introduit, c'est une langue international. Aujourd'hui, tout est en anglais. Partout où vous montez dans l'avion, partout c'est l'anglais. Je veux vraiment, vraiment applaudir. Bon, maintenant, le problème c'est qu'on a essayé de camoufler les manquements. J'ai été député dans le premier lancement, je connais. Quelques visites inopinées dans les salles de classe. Je me suis retrouvé nez à nez à des enseignantes qui ne parlaient qu'en Sango aux élèves. Ça m'avait vraiment fait du mal. Et donc, ils ne savent pas comment, remédier à ce problème-là. On a voulu institutionnaliser et mettre le Sango. J'ai dit, ça n'apporte rien. Un enfant qui est né dans une famille père centrafricain, mère centrafricaine.
Je voulais savoir, est-ce que c'est le Sango qu'on va utiliser pour enseigner ou bien on va enseigner la langue Sango en tant que telle dans la classe? C'est ce qu'on veut savoir.
Si je comprends bien, si je peux me tromper, l'inspecteur pourra me corriger. C'est comme si on a donné l'autorisation à un enseignant
de faire les deux langues.
De parler en même temps en Sango et en français, c'est si je ne me trompe pas.
Moi, je suis pour cette pratique-là, parce que je donne mon exemple. Moi, j'ai fait mes études chez les prêtres, les frères maristes, et en latin, l'emploi de pronoms réfléchis, c'est très difficile. Sous et c'est difficile. Et le prêtre il a eu l'idée d'écrire la phrase en latin, en français, en Sango, mais tout le monde a compris. Donc, le Sango peut aider aussi. Donc, on peut commencer par là, hein, aider. Et je vous dis qu'en France, vous pouvez même choisir en mention la langue Sango en France, hein, ça se fait. Vous pouvez dire que là-bas, bon, pour le baccalauréat, je choisirai comme langue option Sango. Vous pouvez le faire en Sango.
Ah bon?
Mais pourquoi pas? Oui, en France, le baccalauréat.
Oui, mais c'est qui Kobe?
Pourquoi pas dans notre pays?
Oui, c'est cette question de langue Sango, vous voulez répondre?
Moi, je le dis encore, que l'introduction de cette langue dans le système n'est pas la solution holistique. Nous avons déjà enregistré d'autres problèmes. Alors, à mon avis, il faudrait que nous cherchions à apporter des solutions à ces problèmes avant d'introduire cette langue Sango. Déjà, enseignant en français, pose un problème pour les enseignants. Et c'est en cela que je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure à l'inspecteur. Je ne lui ai pas manqué de respect. Je ne pourrais jamais le faire. Mais quand on est patriote et qu'on sent que quelqu'un veut mettre en péril justement la vie de la nation, ce n'est que normal qu'on soit choqué. Moi, je suis jeune, je suis choqué. Je ne sais pas, est-ce que vous pesez, vous posez la conséquence de ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'est parce que vous n'avez pas de moyens que vous n'avez pas pu assurer l'inspection sur toutes les tenues du territoire. Mais c'est grave. C'est comme ça, veut dire. Vous détruisez la vie de la nation. Vous détruisez le système éducatif. Oui, c'est donc en cela que j'ai réagi. Je ne vous ai pas manqué du respect.
Je reviens maintenant, monsieur l'inspecteur général. Le baccalauréat, on n'a pas encore eu le résultat, mais on a lancé la rentrée scolaire. Ce lundi, les élèves vont reprendre le chemin de l'école. Comment cela va se faire encore?
Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'était passé l'année dernière avec les interruptions qui se sont passées? On a programmé les résultats du baccalauréat. Et au deuxième tour, qui dure qu'une journée, les élèves sont rentrés à l'école. Les enfants du fondamental 1 qui ont perdu beaucoup de temps, vous les laissez à la maison, pourquoi? Ils n'ont rien à voir avec le baccalauréat, il faut reprendre l'école, le chemin de l'école normalement. Ceux qui n'ont rien avec le baccalauréat peuvent continuer l'école. Et aussi, c'est l'avantage de maintenir les anciens à leur poste. On prolonge les vacances, les surtout ceux de province qui viennent à Bangui pour rentrer en province, c'est tout un problème. Donc il faut qu'ils restent chez eux. Le deuxième groupe du baccalauréat ne dure qu'une journée. Mais alors pourquoi traîner encore?
Mais pour l'instant, les corrections se poursuivent encore.
Mais oui, je suis dessus. Hein. Vous m'avez venir ici vous parler, hein, les corrections se poursuivent. Peut-être là où je te parlais hier, il restait seulement quelques corrections de mathématiques qui s'est terminées. Hein. Peut-être d'ici la première année, on verra clair. Mais je ne vais pas donner de date, hein, parce que les Centrafricains donnent une date tout de suite, on va raconter ma chose par rapport à ça. On procède à la vérification, puis voilà. Et puis bon, ça n'empêche pas que les enfants reprennent l'école. Parce que vous savez, il y a des interruptions, il y a des mois, plusieurs interruptions, le Covid,
donc, les petites vacances. Donc la rentrée n'est pas uniformisée.
Uniformisée comment? Le fondamental, un reprend, ceux qui n'ont rien avec le bac, ils reprennent l'école. Au lieu de rester à la maison, perdre du temps. Il faut qu'ils reprennent.
Mais, à mon avis, c'est un dysfonctionnement que l'on ne doit pas normaliser dans le système éducatif. Ça, c'est un désordre total. On ne peut pas organiser une rentrée de façon différée. Non. Les gens vont reprendre le chemin de l'école d'ici lundi. Mais ceux qui sont en classe de terminale, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester à la maison.
Bon, les nouveaux élèves de terminale.
Et les anciens. Et ceux qui vont reprendre, ceux qui vont rater le bac.
Permettez. Tout le monde veut parler du système éducatif sans connaître.
Il finit d'abord. Oui, vas-y, Kiko bien. Allez-y, monsieur l'inspecteur.
Moi, je ne vois pas le problème. Au niveau du fondamental 1, qu'est-ce que le gosse le préscolaire le fondamental 1 avec le bac? Mais il faut qu'ils repartent à l'école. Et même dans la classe de terminale, vous en voyez parler. Le conseil des classes s'est tenu. Le gars qui passe le baccalauréat, il dit que non, moi j'ai déjà passé 3 fois, je ne dois pas redoubler. La décision est déjà prise. Donc s'il a la chance, il va passer, il va s'inscrire à l'université. Mais celui qui redouble, il redoublera. Mais ceux qui passent
c'est ceux qui vont décrocher leur baccalauréat, mais déjà à l'université, les inscriptions, tout et tout. C'est aussi un manquement sur nouveau. Hein. Oui, mais monsieur Dutta.
Je pense qu'on est devant le fait accompli. Hein. On a déjà décidé que la rentrée sera le 18 octobre. Malheureusement, le bac n'est pas encore proclamé. Moi, ce que je veux dire par rapport au bac, cette année, si on peut également le mettre en ligne. Nous sommes à l'ère du numérique. Et je pense que nous sommes le seul pays au monde où le bac est encore lu à la radio. C'est vrai, on va dire, oui, les gens aiment bien ce système, écouter le nom de son enfant à la radio, c'est bien, mais ça prend du temps. 3, 4, 5 heures parfois qu'on mobilise une radio nationale. Alors qu'on peut faire autre chose. Maintenant que tout le monde a, quand j'ai dit tout le monde, pratiquement tous les élèves qui vont faire le bac ont un smartphone.
Les Android.
Est-ce qu'on ne peut pas mettre en ligne les résultats du bac, au moins comme on l'avait fait en 2004, je pense, sous l'époque de Mekasson?
J'étais avec là, c'est moi qui ai pris l'initiative là. Et puis nous avons reçu des félicitations des universités américaines, françaises et tout. Je dis non, même quand vous allez là-bas, je dis non, mais on a un résultat de centrafic, hein, donc ça facilite les choses. Vous savez, en RCA, parfois on avance, on recule, voilà.
C'est Amando.
Non, je suis d'accord, parfaitement d'accord.
Vous venez de toucher là un problème que je voulais soulever ici. Et vous parlez que le baccalauréat, mais parlez de concours d'entrée en 6e. Vous êtes à Bangui, le capital, où les écoles sont là, où les directeurs des écoles sont là, les noms des enfants connus, les enfants vont passer le concours d'entrée en 6e. Ceux qui seront admis, il y a les résultats, on remet le résultat au directeur de l'école, il vit à son école, il affiche le résultat, et les parents viendront consulter, ainsi de suite. J'ai regardé la télévision il y a un mois de cela, comment les baccalauréats étaient, on a donné le résultat du baccalauréat au niveau de la Côte d'Ivoire. C'était devant salle de classe. Vous voyez, on perd, comme l'a dit notre frère, on perd des jours en immobilisme de la radio nationale pour lire seulement les noms des admis de concours d'entrée en 6e. C'est ridicule. À 61 ans d'indépendance, ça n'a pas de sens. Tout comme le baccalauréat. Armando, aujourd'hui, il y a un désordre total. À l'université même, on n'en parle pas. Lorsqu'on parle de l'éducation, on parle de quoi ? Dans la globalité, on parle de l'école fondamentale 1, école fondamentale 2, et on parle de l'université. On parle de l'école de formation professionnelle. Alors, à l'université, nous ne savons même pas à quel moment la rentrée là-bas, à quel moment ils vont terminer. Aujourd'hui, c'est un flou total.
C'est de la cacophonie, c'est ce que vous voulez dire.
Je donne la... Je termine.
Quelques secondes.
Personne ne sait. Alors, la SIA, vu cette situation-là, le taux de redoublement au Brésil de la République centrafricaine est de 24 à 24,5%. C'est le taux le plus élevé dans tous les pays d'Afrique. Parce que le problème des enseignants, le problème de niveau fait qu'il y a beaucoup de redoublements. Alors donc, ces enfants-là, ils vont faire quoi ? Ils vont faire quoi ? Parce que, ou alors on précise à ce moment-là que non, cette rentrée-là, ça coûte ce que le fondamental 1. Qu'on précise que c'est fondamental 1, bon, les enfants fondamentaux vont rentrer, et fondamental 2, et les universités vont patienter.
Oui, monsieur Sopio, rapidement pour qu'on boucle, est-ce que vous ne craignez pas que l'insécurité peut jouer sur le système éducatif avec ce que nous connaissons aujourd'hui ?
C'est évident, il faut le reconnaître. Mais depuis que j'étais pratiquement aux commandes en tant que supérieur du baccalauréat, nous avons fait des efforts pour organiser le baccalauréat sur toutes les endroits du territoire centrafricain. Même à Bangassou, c'était le dernier organisé en système des OP. Et c'est pas tout d'organiser le baccalauréat, mais il y a d'autres problèmes aussi, peut-être pour apporter des solutions. Même les députés vont nous aider, peut-être ils ont les moyens. Par exemple, j'ai discuté avec le sultan de Nila, il a dit, mais Sopio, c'est bien, les enfants le bac, mais ils ne peuvent pas venir à Bangui Saint-Claire à l'université, c'est trop loin. Et puis, ils n'ont pas de parents ici. Il y a des problèmes, hein. C'est pas un seul, je ne comprends pas d'autres problèmes. Et puis, le gouvernement, tout seul, ne peut pas régler tous les problèmes. Hein. Il faudrait qu'il y ait au moins peut-être une concertation au niveau national pour que certains apportent leur contribution. Voilà, donc, le problème, c'est ça. Hein. Donc, et puis, l'université aussi doit apporter sa contribution. Et jusqu'à présent, on a eu 51 centres d'examen de baccalauréat, le monde, hein, bon, grâce à la MINESCA, on a organisé, on a fait parvenir, on a envoyé le président sur le terrain en avion, grâce à la MINESCA. D'ailleurs, s'il n'a pas de moyens, ils nous ont aidés. Parce qu'ils savaient qu'on avait la volonté vraiment de réussir cette opération.
Oui, monsieur Ndeta.
Oui, moi, je pense qu'il y a la volonté quelque part, mais ce n'est pas suffisant. L'éducation, c'est d'abord l'affaire de l'État. D'abord l'affaire de l'État. Ce n'est pas les privés, c'est pas... Même s'il existe des structures privées, c'est d'abord l'État. J'ai sous les yeux un document, engagement de financement national, sommet mondial de l'éducation. Donc c'est une lettre qui a été envoyée au ministre Aboubakar Moukadas, nous, le 18 mai 2021, par tous ses responsables, où on sollicitait l'engagement politique des chefs d'État. On a fait venir Boris Johnson et Jomo Kenyatta, et on sollicitait l'engagement du président de la République centrafricaine. Et je lis ce passage pour que vous puissiez comprendre. Donc ça veut dire que on nous demande que ce soit au niveau politique que l'on prenne des engagements et qu'on respecte ces engagements. On va jusqu'à même nous donner des pourcentages pour que nous puissions financer, entre 20-25%. C'est un programme entre 2021 et 2029. J'aimerais bien avoir des informations sur ce qui s'est passé, parce que c'était en juillet. Je lis exactement ce qui est dit. Le Premier ministre Boris Johnson du Royaume-Uni et le président Uhuru Kenyatta du Kenya sont personnellement investis dans la campagne. Le président du Kenya lui-même contactera votre président pour lui demander de co-signer une déclaration de leadership afin d'élever le financement national au plus haut niveau politique. Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien pour que son Excellence M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, signe cette déclaration essentielle. Ça, c'est le sommet mondial pour l'éducation. Est-ce qu'on l'a fait ? C'est la question que je pose à l'inspecteur.
Oui, le gouvernement a pris l'engagement de respecter cet accord. Non, ça a été fait. Et vous voyez que les efforts qui se font en ce moment, et les choses vont s'améliorer progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se faire, mais progressivement, les choses sont en train de s'améliorer. Donc, il faut être un peu patient.
Une proposition qui est simple.
Et vous avez parlé tout à l'heure du lycée technique, mais passez avec moi tout à l'heure au lycée que vous allez voir. D'ici le 20, il y aura inauguration. Vous serez surpris.
J'étais là-bas, j'ai vu. Il y a des travaux.
Non, c'est pas encore. On prépare le terrain.
Oui, mais je suis entré là-bas le dimanche dernier.
Et c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres tout au long de cette discussion politique. Merci à tous nos auditeurs et à tous nos invités, à tous nos internautes d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci à Christian Emendota pour votre participation.
Merci à Armando de nous avoir invités.
Merci aussi Michael Kikobe. Merci pour votre participation.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir
vice-président du Conseil national de la jeunesse centrafricaine, monsieur Augustin Agou. Merci d'avoir préparé ce rendez-vous. Merci. Voilà, ancien député du premier arrondissement de Bangui, et monsieur Romain Sopio. Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, inspecteur général de l'enseignement à la partie technique. C'était donc le service de Guy Rémi Yamelendi, Armando Nguindi. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Au revoir.